Bonjour Pierre-Henri Castel.
Bonjour.
Merci de me recevoir chez vous. Nous parlons de pervers analyse d'un concept suivi de Sade à Rome, paru aux éditions Ithac. Après vos deux gros volumes qui représentent votre œuvre principale, Âme scrupuleuse, vie d'angoisse, triste obsédée et La fin des coupables, pourquoi ce livre ?
Alors il y a plein de raisons. Il y avait une raison tout à fait circonstancielle, c'est que l'an dernier c'était l'année Sade et que j'avais beaucoup réfléchi à une certaine manière de parler de la philosophie de Sade, et comme la question du mal est une question centrale du travail que j'avais fait sur les obsessions, puisque une des manières de lire mon histoire des obsessions, c'était de la lire comme une anthropologie du mal, hein, c'était une modalité particulière de la façon dont les individus répondent aux envies criminelles qui les traversent, aux envies, les obsessions étant toujours hein, des espèces de représentations atroces de ce que l'on pourrait faire, du désordre, de la normalité extrême qui est refoulée, contrôlée, etc. Là, j'avais promis à la fin du livre de dire quelque chose de ce mal que l'on se voue à contrôler de manière absolument permanente et qui a été un peu, depuis le XVIIe siècle, en Occident, une des raisons constitutives de toute cette logique de l'autocontrôle, de la maîtrise de soi, de la répression des pulsions, selon les différents registres dans lesquels on a pu le nommer, et qui ont fabriqué l'intériorité moderne. Mais le problème, évidemment, c'est de quel mal il s'agit. Est-ce qu'on peut faire une anthropologie du mal? Est-ce qu'on peut caractériser le mal? Il y a un problème qui est tout à fait classique, tout à fait simple, hein, avec le mal, c'est que le mal a quelque chose d'irrationnel, et qu'il paraît très très difficile de construire le mal avec un M majuscule comme étant un concept. Hein. C'est plutôt, au contraire, quelque chose qui fait obstacle à la pensée, qui se refuse à la pensée. Donc j'avais l'intention donc de saisir l'occasion des réflexions sur Sade que je voulais publier pour réfléchir sur cette question du mal. Et donc j'ai trouvé un moyen d'articuler les deux, hein, c'est-à-dire une caractérisation conceptuelle de ce que c'est que le mal et une réflexion sur Sade.
Et vous écrivez « Cet essai parachève l'analyse que j'ai donnée ailleurs de la fragilité de l'action humaine et notamment de nos embarras quand nous sommes sommés de poser un acte. Il y a en effet bien peu de certitude dans l'articulation de nos intentions à nos actions. »
Alors ça, c'est un motif qui m'intéresse beaucoup, qui est parce qu'il occupe l'essentiel de la réflexion philosophique contemporaine en philosophie de l'esprit, enfin dans la tradition, notamment ce qu'on appelle la tradition de la philosophie analytique de l'action, qui est la question de savoir comment les intentions et les actions se coordonnent. Il y a, pour le rappeler très rapidement, il y a deux façons de voir les choses. On va dire soit dans une filiation à la Wittgenstein que ce qu'on appelle une intention, ça n'est jamais rien d'autre au fond que la raison pour laquelle on agit, qu'une intention. Avoir une intention, c'est quelque chose qu'on vous suppose, qu'on élucide, qui sert à clarifier ce que vous voulez faire. On vous demande les intentions que vous avez eues, mais ça vous fait rien de particulier, c'est pas un état psychologique particulier. Et puis il y a tout un courant qui est beaucoup plus marqué par les sciences cognitives contemporaines, qui fait de l'intention un véritable processus, qui est d'ailleurs enraciné dans le cerveau, et qui est au fond toute la phase préparatoire de construction, de planification, de régulation de l'action, et qui permet à l'action d'être une action. Et là, on n'est plus du tout dans la perspective de l'intention comme raison, on est plutôt dans la perspective de l'intention comme un ingrédient causal de l'action. Alors, c'est ce que j'ai soutenu longtemps, c'est qu'au fond, on a tout à fait le droit de penser l'un comme l'autre, mais que ça fait un petit peu l'impasse sur une expérience anthropologique beaucoup plus générale et beaucoup plus simple, qui est le fait qu'entre nos intentions et nos actions, entre ce qu'on voudrait et ce qui se passe, il y a un moment comme ça de suspens, de fragilité, qui est systématiquement, si vous voulez, passé sous silence par ce genre d'interprétation, qui vont interpréter, par exemple, quand on fait de la psychopathologie, les troubles du rapport entre l'intention et l'action vont être décrites, par exemple, soit comme des bugs dans le traitement des signaux cérébraux, qui fait qu'on voulait faire un truc et puis on en fait un autre. Voilà, c'est des choses comme ça qui sont extrêmement, extrêmement communes. Et donc, moi, je me suis intéressé beaucoup plus platement à la phénoménologie ordinaire, hein, du fait qu'on veut faire quelque chose et puis c'est autre chose qu'on fait. Et puis, quand on fait quelque chose, bien sûr, ça se réalise, mais est-ce que c'était vraiment exactement ce qu'on voulait faire, qu'on a fait, etc. Ce sont des questions qui sont beaucoup plus générales. Et alors effectivement, le lien peut apparaître comme il apparaît au début du travail que vous avez cité, là, âme scrupuleuse, vie d'angoisse, tristes obsédés, c'est que lorsque on se retrouve dans des situations, tout le monde s'y retrouve pas, mais tout le monde peut avoir une idée de ce que c'est quand même suffisamment universel, dans lequel vous essayez de faire quelque chose, et puis vous n'y arrivez pas. Et puis vous réessayez, et puis vous n'y arrivez toujours pas. Et puis quand les choses se réalisent, on a l'impression que les intentions que vous y avez mises ne sont jamais réalisées. Au bout d'un certain temps, on finit par se demander s'il n'y a pas une contre-intention ou une sorte de chose qui va contre vous, qui fait que là où vous voulez faire une chose, c'en est une autre qui se réalise, ou etc. Et alors il y a eu beaucoup, anthropologiquement, historiquement, de manières de donner du sens à ce phénomène. Et une qui est fort classique, c'est de penser qu'il y a une présence, un agent contraire à l'intérieur de moi-même qui m'empêche de faire ce que je veux faire ou qui me fait faire ce que je ne veux pas faire. Et cet agent contraire, plein de sociétés, alors évidemment je travaille essentiellement sur l'Europe et l'Occident, y ont vu, ben justement, il y a quelque chose de diabolique, hein. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui fait échouer mon intention, qui me fait rater, et qui me veut du mal en me faisant rater. Une autre modalité de la chose, c'est celle qu'on appelle dans la perspective freudienne, n'est-ce pas, du refoulement, de la contre-volonté, l'idée qu'il y a un désir inconscient qui s'oppose à ce que je veux réaliser, qui est une autre manière de mettre en forme cette expérience de la déconnexion, de la fragilité, de la friabilité du lien entre intention et action. Et donc c'est la raison pour laquelle, justement, quand ce que vous faites... Vous voulez surtout ne pas faire de bruit et tout d'un coup vous êtes pris de manière irrépressible par une espèce d'éclat de rire où vous faites un bruit avec la bouche alors que vous voulez surtout pas faire de bruit. Il y a eu des époques où on était considéré comme possédé par le diable quand on faisait ça, et puis d'autres époques où on a pensé que c'était un désir refoulé contraire à ce qu'on attend de vous qui se manifestait, et puis aujourd'hui on a quelquefois tendance à considérer que voilà, ce sont des sortes de bugs cérébraux, des perturbations dans la régulation de l'action, qui comme des tics par exemple, des tics incontrôlables qui se déchaînent et qui font que vous ne faites pas ce que vous vouliez faire. D'où le fait qu'on ne peut pas penser le rapport entre l'intention et l'action, à mon avis, hein, c'est une position qui est un peu à la fois philosophique et anthropologique, sans se poser la question de ce qui se passe quand on est dépossédé de ses intentions. Et lorsqu'on en fait, qu'on est pris par une force qui vous fait faire autre chose que ce dont on avait l'intention, et évidemment, le point névralgique, c'est quand cette force vous fait faire quelque chose qui est mauvais pour vous, mauvais pour l'autre.
Ce qui est le cas du sujet pervers.
Alors, la question du sujet pervers, c'est une question qui est un petit peu en décalage par rapport à cela, parce qu'au contraire, le sujet pervers, au contraire, je dirais même, il fonctionne dans notre imaginaire collectif comme celui qui, lui, réussirait sans coup férir à accomplir son projet néfaste. Et d'ailleurs, une des choses que je suggère, mais en passant, parce que le pervers analyse d'un concept suivi de Sade à Rome est un ouvrage différent, il est beaucoup plus court, il est beaucoup plus conceptuel dans la première partie, et beaucoup plus littéraire et philosophique au sens traditionnel dans la deuxième partie. Il est néanmoins pris dans cette réflexion que je mène sur la constitution de l'individu en Occident. Parce que la figure du pervers émerge dans le contexte triomphal de l'individu du XVIIIe siècle, de l'individu des Lumières, où la question de savoir si quelqu'un peut mener jusqu'au bout ce qu'il veut faire, ses plans, sans s'arrêter, sans se laisser intimider par rien, et les mettre entièrement au service d'un égoïsme presque sacré, presque furieux, sans concession. C'est une question extrêmement grave, qui ne peut naître qu'au XVIIIe siècle, et qui montre bien la différence, c'est qu'au XVIIIe siècle, il peut y avoir des pervers et des libertins, parce qu'il y a beaucoup de gens qui peuvent, comme ça, mener à bien un certain nombre de projets. Il y a une vie privée, il y a des maisons privées, il y a les protections que vous donne l'argent, la naissance, le titre, etc. Et ce n'est pas, vous voyez, c'est pas comme je ne sais quel satrape oriental ou empereur romain qui peut faire ce qu'il veut, mais qui est le seul à être véritablement un individu qui peut avoir des pensées propres et des intentions propres. Là, tout d'un coup, il y a la possibilité de tester un modèle de la volonté privée et de l'égoïsme en allant jusqu'au bout de la volonté de jouissance, et c'est un modèle qui est absolument essentiel dans la constitution de l'individu. Au fond, on a besoin de penser qu'il y a des pervers parce que nous avons besoin de penser qu'il y a des gens qui vont jusqu'au bout de leurs intentions.
Jusqu'au bout de leurs intentions, au point de désubjectiver autrui. Parce que le propre du pervers, c'est son ambition, et son ambition, c'est ce que vous expliquez, est de désubjectiver l'autre.
Alors, c'est-à-dire qu'il y a deux composantes qu'il ne faut pas perdre de vue pour définir ce que c'est qu'un pervers, et ça m'oblige à rentrer un peu dans le détail de l'analyse. C'est-à-dire que il faut distinguer le méchant du pervers. Parce qu'on peut être méchant sans l'avoir voulu. Il y a même la fameuse formule ou analyse socratique, n'est-ce pas, du nul n'est méchant volontairement, qui, sur lequel beaucoup d'encre a coulé dès l'Antiquité. Bon. Ce qu'est le pervers, ou ce que j'appelle le malfaisant, c'est quelqu'un qui n'est pas méchant involontairement et dont toute la volonté est de faire le mal. Il faut faire une distinction entre le méchant et le malfaisant à cet égard. À cet égard, le malfaisant ensuite, le problème c'est à qui est-ce qu'il fait du mal. Et je crois que la perversité, qui est la malignité, cette disposition particulière du pervers, ne se comprend pas du tout. C'est d'ailleurs l'objet de considérations assez techniques par lesquelles je commence le livre, comme une sorte de disposition intérieure, vous voyez, comme quelque chose, comme ce qu'on appelle d'ailleurs aujourd'hui la perversion, comme quelque chose qui viendrait de l'intérieur de vous-même, qui serait inscrit en vous-même et qui s'actualiserait dans certaines circonstances. C'est ça ce qu'on appelle une disposition. Parce que je crois que la malignité ou la perversité, c'est pas une disposition interne, comme une sorte de ressort qui se détend et qui fait que, voilà, on vous présente un petit garçon, vous sautez dessus. Voilà, il n'y a pas de petit garçon, vous sautez pas dessus, hein, vous n'allez pas forcément aller chercher, mais vous avez cette disposition à faire le mal, à nuire, à violer, à torturer, etc. Non, je crois pas. Je crois que c'est pas une disposition interne, c'est quelque chose qui se définit en fonction de la vulnérabilité de l'objet. Ce qui fait l'authentique perversité, c'est, si j'ose dire, c'est qu'elle est à chaque fois cousue main. C'est toujours un travail qui a rapport à la vulnérabilité singulière de celui que l'on vise pour lui causer le plus grand dommage possible. Pour qu'il n'y ait aucun doute sur le fait que le mal qui a été voulu a été entièrement accompli et qu'il n'y a aucun... Et donc, il s'agit d'identifier la vulnérabilité de l'autre. On ne peut pas être pervers en général comme ça. Un pervers devant vous, vous voyez, ne serait pas nécessairement quelqu'un qui ferait toujours la même chose, comme s'il était contraint par une disposition intérieure à faire toujours la même chose. Au contraire, en fonction de ce que vous êtes, il va vous chercher à nuire de façon optimale, si j'ose dire, ou de la façon la pire possible, mais toujours en étant capable de modifier ça. Et ça, je crois que c'est très très important, parce que ça montre bien que l'idée du pervers comme une espèce de grand taré qui est lié à un scénario qui vient toujours le même et qui est un peu automatique, voire hypnotique, qui entre en transe, qui fait toujours la même chose, est très très loin, alors même si ça existe dans la psychiatrie, ces choses-là, c'est extrêmement loin de recouvrir l'ensemble des sens qu'on donne au mot pervers. Pervers a une intelligence de la circonstance, tu vois, il cherche la vulnérabilité, ce par quoi, et même votre vulnérabilité, dont vous n'êtes même pas conscient, et que lui a beaucoup plus l'habitude que vous de détecter.
Oui, vous écrivez d'ailleurs, il importe au pervers suprêmement de faire croire qu'il a réussi à toucher au mal, c'est même son obsession. S'il n'était que méchant ou très méchant, tout le projet contre-éthique de la malfaisance volontaire s'effondrerait.
Alors ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a une difficulté auquel le pervers est constamment confronté. Et je parle même des grands pervers auxquels je fais allusion en note, puisque beaucoup de choses ont été discutées avec des psychiatres qui font des grandes expertises, enfin, qui ont vu un certain nombre de grands criminels en série, etc., que ce soit en France, aux États-Unis, à l'étranger. Donc bon, je cite un certain nombre de propos et où je prends un certain nombre d'exemples. C'est que, justement, quand on est médecin et qu'on est confronté à la question de l'expertise de ces grands tueurs en série, violeurs, monstres, hein, qui est un peu dans notre imaginaire l'incarnation typique du grand pervers, c'est de savoir s'ils ont affaire à des gens qui sont comme ça parce qu'ils sont atteints d'une sorte de lésion de l'inconscient, du cerveau, de la sexualité, de ce que vous voulez, qui fait d'eux des tarés, des déficitaires, n'est-ce pas, qui éventuellement surcompensent par des actes extrêmement mauvais, ou bien si on a affaire à des gens qui nous disent quelque chose de l'action humaine, c'est que l'action humaine, elle est capable du très grand bien comme du très grand mal, bien au-delà de ce à quoi on se limite en général. Donc ce que je veux dire par là, c'est que il importe, le pervers n'est pas mieux situé que vous et moi pour juger du point de mal qu'il a atteint. Il peut toujours se dire, mais après tout, peut-être que je n'ai été qu'un méchant et un barbare. Et peut-être que l'idéal, parce que c'est un idéal, c'est un contre-idéal, mais cet idéal de l'accomplissement parfait de la volonté, c'est juste une histoire que je me raconte, c'est quelque chose dont je ne peux pas savoir de l'intérieur si je l'ai effectivement réalisé. Parce que tout idéal, même l'idéal du mal, par définition, c'est asymptotique, on tend vers lui, mais on ne l'atteint pas forcément. Et d'ailleurs, c'est même le seul point sur lequel on peut considérer qu'il y a une bonne raison de traiter les pervers non pas comme des êtres malfaisants qui auraient réussi ce que personne ne réussit à faire, mais comme des méchants, et comme des gens dangereux et méchants. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune espèce de raison de se laisser impressionner par le projet pervers et de croire que parce que quelqu'un se déclare pervers ou se vit comme pervers, il l'est vraiment. En fait, c'est très difficile de penser qu'on peut être pervers. On peut être un monstre, un très sale type, un être barbare, sauvage et méchant, mais l'effet, vous voyez, de surhumanité, de dépassement transcendant qui est visé, il n'y a aucune raison de croire que qui que ce soit ait jamais transcendé sa propre humanité, même dans le mal, hein.
Alors, comment les juger? Vous contestez la possibilité d'une expertise criminologique de la perversion?
Je conteste en général la possibilité de l'expertise criminologique sur un certain. C'est la même chose que ce que j'avais fait d'ailleurs quand j'avais travaillé sur les malades mentaux, plutôt, non pas les pervers, mais les schizophrènes par exemple, qui commettent des crimes. Je conteste qu'il y ait un moyen pour les médecins d'accéder à un degré d'information particulier qui échapperait au commun des mortels. Et qui leur permettrait de dire que quelqu'un est malade mental ou pas. En fait, je suis très kantien. Je suis sur ce plan ce que Kant raconte dans le Conflit des facultés, c'est que lorsque quelqu'un, on suspecte que quelqu'un a commis un acte criminel sous l'empire d'une maladie psychique, ce n'est pas au médecin qu'il faut le montrer, dit Kant, c'est à la faculté de philosophie. Voilà. Alors, l'inconvénient, c'est Kant ne dit pas ce que la faculté de philosophie,
Problème.
comment la philosophie pourrait se débrouiller mieux que la médecine pour le faire, mais il indique bien que le point est vraiment un point qui ne relève pas de l'examen empirique, qui relève du réseau de justification qu'on peut ou qu'on ne peut pas donner de ce que quelqu'un fait. Est-ce que c'est de la raison ou de la déraison, hein? C'est ça ce que veut dire Kant de manière centrale. Donc ce que je veux dire par là, c'est que ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas, alors c'est là où je me distingue très fortement par exemple de Foucault, c'est que je crois tout à fait qu'il y a en revanche des choses que les experts font, les bons experts le font, en éclairant d'une certaine manière les actes pervers ou les actes fous qui impliquent du mal, mais du très grand mal, des crimes, des viols, des choses comme ça. Mais qu'en général, n'est-ce pas, la prétention à objectiver ce que c'est que la perversion rate complètement. D'ailleurs, c'est très simple, on n'a jamais pu établir la moindre base physiologique, la moindre base corporelle ou quoi que ce soit, ou cérébrale, de cette prétendue activation incoercible d'activités nuisibles et destructrices pour autrui. Absolument jamais. On a passé les gens sous le scanner, on a mesuré la taille de leurs oreilles, la concavité du palais, etc. Mais on n'a jamais pu y arriver. On essaie aujourd'hui, d'ailleurs, de s'intéresser plutôt à des sortes de corrélats statistiques. qui rendrait plus probable, par exemple, la récidive de telle ou telle personne. Mais justement, on n'a jamais réussi à trouver un critère objectif qui permette de distinguer chez un individu lequel est un pervers récidiviste dangereux ou pas.
D'ailleurs, vous concluez, dans notre monde moral, l'idée qu'il pourrait exister des agents qui, eux, arrivent à leur fin, des agents dont la volonté est telle qu'ils se sentent pleinement être eux-mêmes en agissant et qu'ils vont au bout de leur intention sans subir aucune crise interne, tout cela constitue un mythe extraordinairement séduisant.
C'est le mythe sadien. C'est pour ça que la seconde partie du livre est consacrée à Sade, parce que je crois que Sade, c'est celui qui a le plus vu au XVIIIe siècle, à l'époque des Lumières, au moment de la grande émergence de l'individu égoïste, moderne, qui avait là un ressort dramatique et moral absolument incroyable, c'est d'explorer cette possibilité d'aller jusqu'au bout de ses actions.
Parce que cette figure du pervers ne peut prendre naissance qu'à la fin du XVIIIe.
Alors ça, c'est une thèse très forte, mais je crois qu'effectivement, il y a quelque chose dans notre configuration anthropologique, dans les sociétés individualistes dans lesquelles on vit, qui fait que pour nous, le pervers, c'est celui qui met sa jouissance individuelle privée au-dessus de tout, au-dessus hein, même de la vie de la vie de ses semblables, mais qui ne le fait pas parce qu'il occupe une position hiérarchique supérieure dans la société, parce que c'est pas Gilles de Rais ou je ne sais quel empereur romain, Néron ou quoi que ce soit. Non, c'est parce que c'est Dupont ou Durand. Et que c'est Dupont ou Durand qui fait l'expérience que dans la banalité de sa condition d'individu privé, il y a ce ressort particulier de la possibilité du crime.
Ça, c'est la grande nouveauté de Sade.
Je crois que Sade, c'est celui qui a le plus, même s'il met en scène beaucoup, comme on m'a fait remarquer en critiquant mon travail, il met en scène essentiellement des gens, hein, des aristocrates, etc. Mais néanmoins, vous voyez, Juliette ou Justine, deux orphelines abandonnées, peuvent être promises. Alors évidemment, Justine au rôle de victime, mais Juliette, puisque la seconde partie du livre est sur l'histoire de Juliette, l'orpheline abandonnée, par le seul ressort de sa détermination, de sa volonté, de son intelligence personnelle, des leçons qu'elle prend auprès des libertins, peut se frayer dans la société un chemin extraordinaire, semé de cadavres, et dans lequel elle aura connu finalement toutes les jouissances les plus insensées.
Et ça, c'est la nouveauté.
Je crois que ça, c'est vraiment une nouveauté que vous ne verriez pas, par exemple, dans des équivalents auxquels peuvent penser ça, d'ailleurs, comme le roman latin, dans Pétrone, etc., où il y a effectivement des trajets, des trajectoires comme ça, d'affranchis, etc. Mais là, cette idée éthique, ou contre-éthique, hein, si vous voulez, d'une quête du mal et d'une découverte de la force, de la volonté de jouissance pour construire une existence, et lui frayer un chemin absolument lumineux, lumineux dans les ténèbres, hein, dans l'obscurité du mal, c'est vraiment un motif que je ne vois pas émerger autrement qu'au XVIIIe siècle, et surtout un motif inséparable, c'est pour ça que ça s'inscrit dans le reste de mes travaux, de la formation de l'individu contemporain.
Voilà, c'est-à-dire, ça va avec le développement du concept d'individu.
Il me semble.
C'est votre thèse principale.
Ah oui, c'est la thèse principale. Oui. C'est qu'au fond, moi, ce qui m'a toujours beaucoup frappé, c'est que lorsque Freud met au jour les fantasmes que nous réprimons dans ce qu'on appelle avec lui les névroses, ces fantasmes sont pervers. C'est que c'est de l'essence même du fantasme que d'être pervers. C'est quelque chose, je crois, qui le frappe dès le départ chez des névrosés qu'il soigne, ce qui le refoule et qui les rend malades. Et qui les rend malades, d'autant plus que ça rend encore plus pervers les fantasmes de ne cesser de les refouler toujours. C'est justement leur contenu pervers. Ça l'a beaucoup frappé. Et c'est une nouvelle figure, je crois, moderne de la constitution de l'individu qui fait tout à fait écho à ce qu'était à un moment l'expérience de la possession diabolique au XVIIe siècle, dont je pars dans. À laquelle je fais remonter la généalogie de cet individu.
Merci beaucoup, Pierre-Henri Castel.